RMC, 21h, 22h.
6 seconds to go.
Tony Parker Show. Pierre Dorian et Tony Parker.
Avec Jacques Monclar, c'est parti pour une heure de Tipeee Show. Ce soir, il y a un gros match avec San Antonio, Utah. Salut Tipeee.
Ça va, vous allez bien les gars?
Tranquille, salut Jacques.
Salut Pierrot, salut Tony.
Et on vous le rappelle à chaque fois, mais c'est vrai Jacques. Que c'est un événement qu'il faut souligner chaque semaine. On a Tony Parker à l'antenne à quelques heures d'un match de NBA. D'ailleurs, pour marquer le coup, on sera avec Rudy Gobert, le pivot du Jazz et de l'équipe de France, qui est blessé malheureusement, mais qui a fait le déplacement à San Antonio. C'est l'occasion de prendre des nouvelles de Rudy, qui avait bien démarré sa saison avant de se blesser. Et puis, dans ce Tipeee Show, on parlera de hockey avec Pierre-Edouard Belmar. Il y avait un derby de français puisque les deux français se sont affrontés il y a quelques jours en NHL. Le squash aussi avec notre champion du monde Grégory Gauthier. Puis on dira un mot aussi de proie avec Charles Cahudi. Évidemment, vous êtes les bienvenus au 32-16 et sur Twitter. Le hashtag c'est RMC Live. C'est parti pour une heure de show. Et on aura du direct dans cette émission avec la 18e journée de Ligue 2. On suit la rencontre entre Nancy et Valenciennes avec Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Salut messieurs, on se rapproche de la mi-temps, encore 13 minutes à jouer ici à Nancy. Et les deux équipes qui se neutralisent, Nancy et Valenciennes, mais la domination elle est pour les Lorrains qui se sont créés une belle occasion tout à l'heure par Kuffo. Derrière il y a également Dallet qui a provoqué une situation dangereuse, mais toujours pas de réussite pour les joueurs de Pablo Correa, mais ça ne saurait tarder car la pression est vraiment importante sur la cage de Damien Perkis, le Valenciennois. Encore 13 minutes à jouer dans cette première mi-temps, 0-0.
Merci Arnaud. Et puis le basket, bien sûr, la 12e journée de proie. Gravelines Dunkerque. On va faire le point tout de suite avec Jean Baumel. Salut Djibo.
Salut Pierrot. Gravelines Dunkerque contre Pau. Et on est dans le deuxième quart-temps. Il reste 3 minutes et 42 secondes. Et un petit poil d'avance pour les Palois. 22-21. Ils ont repris les commandes tout juste il y a 2-3 minutes. C'est assez serré comme partie. Et on pensait Gravelines à domicile un peu impérial. Bien pour l'instant, voilà, c'est le début du match. Mais à 4 minutes quasiment de la fin de ce deuxième quart-temps. Pour l'instant, un petit point d'avance pour Pau, 22-21.
Merci Djibo, allez c'est parti avec l'actu des Spurs.
RMC, le Tony Parker Show.
Avec cette semaine, 3 victoires et une défaite pour les Spurs. Vous êtes à un bilan de 20 victoires pour 5 défaites. C'est un début de saison tranquille, hein. Il y a aucun accro sorti à ses 5 défaites, mais pour l'instant on a l'impression que la mécanique Spurs est parfaitement huilée, Tipeee, hein.
Ouais, ça va, ça se passe bien. Je trouve que défensivement on est bien en place, on est en avance par rapport aux autres années. Et offensivement, petit à petit, on trouve notre rythme. J'ai l'impression que LaMarcus Aldridge et David West s'y sentent de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, c'est à nous de continuer en mode sous-marin et continuer à progresser. Et à la fin de l'année, ils parleront un peu de nous.
Le fameux mode sous-marin, c'est-à-dire que tu te mets en dessous de Golden State et t'avances couvert, quoi. C'est vrai qu'on se disait avec Jacques avant l'émission que finalement votre bilan qui est de 80% de victoire, ce qui est quand même énorme. On n'en parle quasiment pas parce qu'au-dessus il y a Golden State. Mais quand tu regardes l'écart avec les équipes suivantes à l'ouest, c'est impressionnant, Jacques, quand même.
Bah, c'est le même. Il y a 4 et 4. Les Spurs ont 4 sur le 3e parce que derrière eux, c'est un peu la bouteille à l'encre. Il y a beaucoup d'équipes qui ont, entre guillemets, raté leur début de saison, même s'ils sont encore 3-4e, mais on les attendait meilleurs que ça. Les Clippers en tête, voire même OKC, Memphis qui sont en dessous, sans parler de Houston qui est largement en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Les seuls qui restent à peu près dans le rythme survitaminé des Warriors sont les Spurs et même en mélangeant la conférence Est, Cleveland donne pas en ce moment des gages de sécurité. Là, ils ont joué Atlanta qui est un peu leur miroir à l'Est, ils te l'ont mis une fessée terrible après s'être fait attraper à Toronto qui est une équipe qui remonte en ce moment. Voilà, moi j'ai l'impression qu'ils ronronnent un peu. Alors ils doivent travailler, il va pas nous le dire, hein. Ils doivent faire des trucs défensifs, ils doivent essayer des associations, ils doivent les gérer physiquement, enfin je parle de Greg Popovich et de son staff en disant il. Voilà, mais j'ai l'impression qu'ils ronronnent gentiment.
La saison commencera
après le All-Star Game.
Alors en attendant il continue de gérer vos temps de jeu.
Exactement ça, Jacques.
Ouais, j'ai cru comprendre là. J'ai un moment, je tiens.
Alors, toi, ton tour a passé lors du match face aux Lakers. Est-ce que tu n'étais pas un peu déçu de ne pas jouer face à Kobe, même si vous les retrouverez dans la saison?
Non, pas du tout. De toute façon, moi, j'ai joué contre Kobe quand il était dans son prime et quand il était à son meilleur niveau. C'est vrai qu'à l'époque, Spurs-Lakers, c'était un match à pas louper. Et c'était un des gros, gros matchs, même pendant la saison régulière. C'était des matchs de playoff. Là, c'est bon, sans manquer de respect, ils sont pas très bons cette année. Ils sont à 3 et 20, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est plus les mêmes Lakers. Donc, Pop, il a décidé de me mettre au repos. Et donc, voilà, c'était à mon tour. J'avais pas loupé un match depuis le début de saison. Je suis en bonne santé. Et donc, voilà, Pop il a décidé, hein, donc je respecte sa décision.
Alors du coup, alors comme on parle évidemment beaucoup de la retraite de Kobe, les médias américains ont remis sur le tapis un vieux serpent de mer qui est la retraite de Tim Duncan. Et bon, il a pas l'air pressé de s'arrêter finalement, parce qu'avec cette façon de gérer les temps de jeu, il est au top encore. Hein.
Il est bien. Et Pop, ça fait depuis longtemps qu'il a cette stratégie avec le Big Three de nous faire jouer le plus longtemps possible. Et donc, c'est ce qu'il a fait avec Manu et Tim. Il a commencé, il y a 4-5 ans, un système de gestion. Et là, il est en train de faire pareil avec moi, où j'ai moins mon temps de jeu. Il a baissé jusqu'à maintenant 26-27 minutes de moyenne. Et je vais pas jouer tous les back-to-back, surtout à partir de, je pense, février, là, où il va nous gérer. Donc, ça va me permettre de jouer plus longtemps. Donc, c'est bien.
En tout cas, on voit dans ces matchs, déjà, qu'il y a une vraie grosse profondeur de banc. Quand tu vois les David West, les Boris Diaw.
Oui.
Tout le monde joue et le niveau reste à peu près le même à chaque fois. Hein.
Mais je crois que Greg Popovich et l'organisation des Spurs ont réussi à faire passer le message que c'était pour un jeune qui veut se développer, type Kawhi Leonard ou LaMarcus Aldridge. Et on parle
la franchise idéale.
Et on parle de stars et de superstars, c'est bien. Pour des mecs qui veulent le cimetière des éléphants, mais jouer au basket, genre David West, et il va me détester, et Boris Diaw, c'est parfait aussi. Tim Duncan, Manu Ginobili, Lee et Tony, le trio, enfin, c'est un club confort, les mecs sont heureux, là-bas. Et ils viennent souvent pour moins cher qu'ailleurs, hein, quand même. Hein. C'est un paramètre non négligeable. Ouais. Maintenant, Greg Popovich, bien sûr, immense, mais il faut avoir le personnel pour faire ça. Quand tu sors Tony Parker, il faut avoir Patty Mills, comme il y avait Corey Joseph avant. Il faut avoir des Danny Green, il faut avoir des joueurs comme ça, qui sortent du... Enfin, lui, en l'occurrence, il débute souvent. Il faut le personnel, hein, pour...
Le Tipeee Show, comme tous les lundis soirs, c'est l'actu des Spurs.
Ça, si on n'avait pas le personnel, ça c'est sûr.
Eh ben oui.
Et le fait d'avoir même des petites trouvailles comme Jonathan Simmons, ça permet de faire jouer Manu que 6 minutes contre les Lakers, et donc après, il est frais pour Atlanta.
Et du coup, on va accueillir tout de suite...
C'est vrai que tous les matchs là, vas-y Pierre, je vois que tu veux changer de topic.
Non, c'est parce qu'il y a une petite coupure sur ta ligne, pas de souci. Finis ce que t'as à dire, Tony, il y a pas de souci.
Il y a eu un burp sur ta ligne.
Ah non, mais moi ce que je voulais dire, c'était confirmer ce que Jacques disait, quoi, que pour faire ce que Pop y fait, il faut avoir un gros effectif. Quoi.
Allez, on accueille Arnaud, supporter des Spurs, au 32-16 sur RMC. Salut Arnaud.
Salut à tous. Salut Jacques, Tipeee, Pierre.
Tu peux t'adresser directement à Tony Parker, c'est la magie du Tipeee Show.
Salut Tipeee. J'ai vu le match contre Atlanta. Salut. Et donc, comme le dit Jacques, c'est vrai que tu galopes beaucoup en ce moment. Mais il y a un truc qui m'a un petit peu interpellé, c'est que tu mets tout au fond. En ce moment, tu mets tout au fond. Et donc, je suis allé sur Internet et j'ai vu que tu shootais à 56%. T'es quatrième de la ligue. Comment t'expliques cette adresse un peu meurtrière?
C'est vrai que j'essaie de bien choisir mes tirs, j'essaie de faire une bonne sélection. Le fait que j'ai beaucoup moins de tirs aussi, il faut que je sois plus performant. Parce que maintenant c'est Kawhi et LaMarcus qui vont prendre la plupart des tirs, et donc j'essaie de bien choisir. C'est vrai que de toute façon j'ai toujours pris beaucoup de fierté à shooter à plus de 50%. Hein. C'est pas la première fois de ma carrière que je shoote à plus de 50% sur une saison. Mais bon, c'est vrai que 56-57%, c'est vrai que c'est beaucoup pour un meneur. C'est juste que voilà, j'essaie d'être intelligent avec ma répartition des tirs.
Parce que c'est des intérieurs. Enfin, la plupart qui sont devant toi, c'est des intérieurs. Toi, tu prends beaucoup de shoots mi-distance, c'est pas les plus faciles. Donc c'est vrai que c'est. Enfin, moi, ça m'a fait un peu halluciner. Je me suis posé la question à un moment donné. Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais aller regarder sur Internet. Il y a un truc qui colle pas. Et donc, en tout cas, félicitations.
Bah merci, non merci, c'est gentil. Puis je vais essayer de continuer comme ça.
Merci Arnaud. Arnaud, pas supporter soucis. Des Spurs, c'est bien parti la saison des Spurs. Alors, on en parle avec Tipeee et Jacques Monclar dans un instant. Le Tony Parker Show continue. On sera avec Rudy Gobert à l'intérieur de l'équipe de France et de Utah pour évoquer bien sûr le match de ce soir, mais aussi parler de la saison de Rudy qui est blessé, mais qui a bien démarré hein, pour le moment. Allez, juste avant ça, on va retourner sur notre direct avec la Ligue 2. D'abord, c'est Nancy Valenciennes, Arnaud Valadon.
4 minutes avant la pause ici à Marcel Picot, toujours 0-0 entre Nancy et Valenciennes. Les Nancyens qui butent sur la muraille nordiste pour l'instant, ils multiplient les opportunités. Il y a une belle séquence suivie de deux talonnades consécutives, frappe de Kuffo qui trouve le petit filet de Perkis, et ensuite il y a une tête d'aller quasi à bout portant qui est repoussée sur sa ligne par le portier de VA. Vraiment grosse domination de la part de Nancy dans cette première mi-temps, mais toujours 0-0 au tableau d'affichage. Encore 3 minutes 30 à jouer dans le temps réglementaire.
Merci Arnaud, et puis on fait le point également sur Gravelines-Dunkerque en proie la 12e journée avec Jean Baumel.
Ouais, Gravelines-Dunkerque contre Pau La Cortez, et c'est la mi-temps à l'instant, 31 pour Gravelines, 24 pour Pau. Quand on s'est quitté tout à l'heure, c'était très serré, il y avait un point d'écart d'ailleurs à l'avantage des Palois. Et bien Gravelines a fait le forcing, notamment avec un joli panier à 3 points d'Andou Albici, et donc pour l'instant le break est fait pour les nordistes, 31-24 à l'issue des deux premiers quart-temps.
Merci Jean. On continue bien sûr avec la Pro A et la Ligue 2 dans le Tipeee Show. Dans un instant, on sera avec Rudy Gobert. À tout de suite.
RMC, 21h, 22h.
6 seconds to go.
Tony Parker Show. Pierre Dorian et Tony Parker.
Avec Jacques Monclar, on est ensemble jusqu'à 22h. Ce soir, Tipeee bah, est chez lui, à San Antonio, parce qu'il y a match face au Utah Jazz de Rudy Gobert.
RMC, Tony Parker, le débrief basket.
Rudy, qui est notre invité ce soir dans le Tipeee Show.
Ça va Rudy, c'est Tipeee, ça va le genou?
Ça va toi?
Ben ça va.
Rudy qui est blessé hein, depuis maintenant quelques
ouais,
semaines.
Le genou alors, comment ça se passe?
Ben ça va, je me remets bien là, jour après jour, lentement mais sûrement.
C'est la première fois que tu as une grosse blessure comme ça depuis que tu es en NBA?
Ouais, première fois que j'ai une blessure, première fois que je rate vraiment des matchs en fait, pour blessure quoi. Parce que l'année dernière j'ai joué 82 matchs, mais cette année bon, je m'étais fait une petite entorse en début de saison, j'avais raté 2-3 matchs et là moi, je me suis fait ça, donc ouais, c'est clair, c'est une petite expérience.
Et tu penses revenir quand alors?
On ne veut pas vraiment donner de date, mais bon, là c'est vrai que je suis en avance sur ce qu'on avait prévu, mais on va être sûr que je suis bien à 100%, quoi. Donc je dirais début janvier, si c'est vraiment top fin décembre, et au pire, vraiment au pire, mi-janvier.
Et justement, bah, tu dois regarder maintenant ton équipe de loin. T'en penses quoi justement de tous ces matchs? Vous jouez bien en ce moment, vous êtes dans la course aux playoffs. Enfin, j'ai regardé le match hier, vous auriez dû gagner hier, vous avez un peu déconné. Mais sinon, vous faites un bon début de saison.
Ah, c'est clair. On a battu beaucoup de bonnes équipes. T'es content, enfin, des top 3 à l'Est. On a gagné Atlanta, on a gagné Indiana, on a battu Memphis. Voilà, on bat beaucoup de bonnes équipes maintenant, faut qu'on arrive à être consistant. Et c'est vrai que bon, là, avec ma blessure, ils ont pris quelques matchs à s'habituer à mon absence. Et maintenant, je trouve qu'ils commencent vraiment à progresser défensivement. Donc c'est bon signe.
Jacques, je sais que tu avais quelques questions.
Ouais. Salut Rudy. Je vous laisse finir. Ouais, ben, vous êtes huitième, oui, mais vous êtes passé en négatif. Et est-ce que tu as le sentiment que depuis que tu n'es plus là, vous souffrez sur le poste à l'intérieur ou vous laissez passer des trucs? Ça te frustre pas un peu parce que vous avez fait un super début de saison et puis là vous êtes à 10-12, bon, 8e position, et il y a moyen d'aller en play-off, quoi. On a le sentiment, parce que derrière vous, qui peut revenir? Bon, Phoenix, Portland, Denver, Minnesota, Sacramento, vous pouvez les contrôler tout cela, hein?
Ah, bien sûr, nous, on vise même plus que la 8e place, pour être honnête.
Mais pour ça, il faudrait être au-dessus de la barre des 50, hein, à l'ouest, en fin de saison.
Oui, c'est clair.
Il faut être au-dessus de la barre des... Même si maintenant, c'est pas trop le cas, à mon avis, ça va se rééquilibrer. Et à l'ouest, il faut être au-delà de 50 ou à 50 mini.
C'est clair. Après, c'est vrai que cette année, ça s'est un petit peu rééquilibré, l'est et l'ouest, mais je pense toujours que l'ouest est quand même au-dessus.
Mais bon, je vais revenir et quand je vais revenir, on aura encore beaucoup, beaucoup de matchs. Donc, c'est une longue saison. C'est vrai que voilà, je suis sur le côté, je regarde l'équipe et là, je trouve qu'on est mieux. Après, il y a des matchs qu'on doit pas perdre et on perd de très peu à OKC. Et juste avant, on perd de très peu à OKC chez nous. Donc voilà, c'est des choses qu'on va corriger et des matchs qu'on va prendre la prochaine fois.
Et toi, quand on protège ton ligament, est-ce que t'es déjà dans le fait de courir sans opposition, de déplacement, de tout ça? Est-ce que tu peux bosser le shoot, des moves d'attaque, des choses comme ça, même à régime bas, mais pour garder le rythme et puis progresser sur des mouvements, parce que les grands pivots, Pierrot, ça progresse pendant longtemps, ces bêtes-là, et il faut greffer des mouvements d'attaque au potentiel d'un joueur?
Ouais, moi ça va mieux, comme je te dis, jour après jour. Là j'ai pas encore couru,
non.
Mais je fais du vélo, je peux faire des squats, enfin tout ce qui est dans l'axe, je peux le faire quoi. Mm-hmm. Je pense que je vais courir cette semaine. Ouais, je shoot sans sauter. Mais voilà, ça se passe très bien, donc non, j'ai pas eu à me faire opérer, je pense que mon ligament va se remettre à 100%, donc c'est le principal. Après là, je me renforce vraiment physiquement, et bon, c'est vrai que j'avais pas eu de repos depuis cet été avec l'équipe de France. J'ai peu de repos, donc là, ça me permet aussi de souffler un petit peu.
Rudy Gobert dans le Tony Parker Show. Alors, ce soir, il y a Spurs Jazz. Évidemment, on a compris que tu jouais pas puisque tu reprendras qu'en janvier. Et pourquoi tu fais le déplacement malgré tout avec l'équipe dans ces cas-là? C'est quoi la raison, Rudy?
Parce qu'en fait, j'essaie de rester connecté avec l'équipe, de garder aussi les habitudes un peu, tu sais, de pas trop me disperser, etc.
Tu fais tous les déplacements comme ça?
Là, je fais tous les déplacements. Si ça avait été juste quelques jours après la blessure, je l'aurais pas fait parce que c'est le temps où ton genou peut gonfler, etc. Donc, faut faire attention. Mais maintenant, mon genou n'a pas gonflé du tout. Donc, il n'y a aucun risque que je me déplace avec l'équipe. Et ça me permet aussi d'être avec le staff et de faire mes soins, etc.
Et je sais pas si tu l'as vu récemment, Tipeee, mais il a une barbe qui commence à recouvrir son visage juvénile, Rudy.
On m'a dit, j'ai pas vu encore. Je vais voir ça ce soir. Gobi, quoi, avec la barbe.
C'est quoi le truc?
Tour de la grotte.
T'as décidé de pas te raser jusqu'à ce que tu rejoues, c'est ça?
Ouais, on a un petit pari avec un mec coéquipier.
Ouais, tant que c'est pas...
J'ai pas trop envie de le faire, celui-là.
Tant que c'est pas la grosse moustache.
Rudy Gobert dans le Tipeee Show. Jérémy nous appelle pour parler en direct à Rudy. Salut Jérémy.
Salut à tous, salut Rudy.
Salut.
Ben en fait, ouais, moi je voulais parler avec toi. J'ai lu dans la presse que tu visais cette année le titre de meilleur défenseur de la Ligue. Bon, t'as des stats qui pour l'instant sont plutôt pas mal. T'as des meilleurs contreurs. Est-ce que tu crains un peu que cette blessure te gêne un peu dans les stats ou ça devrait tu devrais revenir assez vite pour pouvoir quand même figurer au top niveau quoi?
Je pense que je vais revenir. Je pense que si je dois le gagner, je le gagnerai. Si je dois pas gagner, je le gagnerai peut-être l'année prochaine ou dans quelques années. Donc on verra. J'espère revenir à 100% et voire même meilleur que je l'étais. Et après, essayer de gagner le plus de matchs possible, on verra ce qui se passera.
Quand tu es un des meilleurs contreurs de la Ligue, Rudy, est-ce que tu penses déjà, même si tu es jeune, au All-Star Game, les votes viennent de s'ouvrir, là, c'est une possibilité pour toi?
Comme tout joueur de basket, oui, bien sûr. Je pense que c'est mon objectif d'être All-Star, que ce soit maintenant ou plus tard. Après, il y a des blessures. C'est vrai que le All-Star, c'est en février, donc... Comme je dis, j'ai pas envie de me dépêcher, de revenir trop tôt. Mmh. Donc le plus important, c'est cette année bien sûr, mais c'est les années qui suivent. Donc c'est de revenir à 100% et après, comme je dis, si je mérite de le faire, je le ferai. Sinon, je me contente sur mon équipe et j'aurai encore beaucoup d'années dans le futur pour le faire.
Merci à Jérémy au 32-16 pour son appel à Rudy Gobert. Tiens, juste un mot sur le match de ce soir, Tipeee, là, vous allez en faire qu'une bouchée du Jazz là?
Moi, je respecte tous les adversaires. C'est une très bonne équipe, Utah. Et je l'ai vu hier contre Oklahoma, et ils auraient dû gagner hier, Utah. Ils auraient dû gagner.
Ah, ils ont fait des bonnes choses. Il y a quand même eu une des actions de l'année, hein. Le contre d'Ibaka sur Gordon Hayward. Je le conseille à tout le monde, Denis.
Moi, je sais pas à quoi il a pensé, Gordon Hayward. Il connaît pas Ibaka.
Mais techniquement, il est vachement beau, le contre d'Ibaka, parce qu'il s'enroule autour de lui et il lui descend la foudre sur la tête. Rudy, t'as dû apprécier, non?
J'aurais dû savoir. Quand il y a des joueurs comme Ibaka, Rudy, tu fais le tour.
Tu fais le tour.
Exactement.
Tu passes par la porte de derrière.
Non, le parce qu'il en a mis deux en fait. Tu parles de celui où il est tout seul en contre-attaque ou celui où il drive.
Ouais, moi je parle de celui en contre-attaque. Moi je parle.
Contre-attaque aussi.
Ouais, ouais, je pense qu'il a juste pas vu. Hein. Il est fatigué aussi.
Bon, merci beaucoup Rudy, c'était sympa d'avoir de tes nouvelles.
En merci,
plus, les nouvelles sont bonnes.
On se voit ce soir.
Merci.
À tout à l'heure.
Bien, bonsoir à toi.
Rudy Gobert dans le Tipeee Show. Donc ce soir c'est Spurs Utah. Tiens, juste avant de poursuivre, on va retourner sur nos directs avec d'abord la Ligue 2, c'est Nancy Valenciennes à la mi-temps. Arnaud Valadon.
Eh bien, pas de but ici pour ce dernier match de la 18e journée de Ligue 2 entre Nancy et Valenciennes malgré la domination des Lorrains.
Merci Arnaud. La proie, la 12e journée, Gravelines Dunkerque face à Pau, Jean Baumel.
C'est toujours la mi-temps, 31-24 en faveur de Gravelines et ça va repartir d'ici une petite minute et 30 secondes.
Merci Djibo, le Tipeee Show, ça continue. Dans un instant, on va parler squash avec Grégory Gauthier et hockey avec Pierre-Edouard Belmar. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show. Parker again. Pierre Dorian et Tony Parker.
Avec Jacques Monclar, on va se diversifier un peu là. On va faire du squash et du hockey avec la NHL. Les deux Français de la NHL se sont affrontés il y a quelques jours. D'ailleurs, tu suis un peu le championnat de hockey américain, enfin nord-américain plutôt, Tipeee.
Vite fait. Je t'avoue. Vite fait.
Tu vas voir que Pierre-Edouard Belmar, il suit la NBA. Le pauvre, il est tombé à Philadelphie. Il a pas de chance. Mais il suit tout ça de très près. D'abord, on va aller sur nos directs parce que ça reprend en Ligue 2 la deuxième mi-temps entre Nancy et Valenciennes. Arnaud Valadon.
Et non, ça n'a pas repris, un peu de retard ici à Marcel Picot. Les joueurs rentrent tout juste des vestiaires. Le temps pour moi de vous rappeler le score, 0-0 entre Nancy et Véa. Nancy qui a besoin d'une victoire pour recoller sur le leader dijonnais.
Merci Arnaud. Et puis en proie, Gravelines Dunkerque qui reçoit Pau, Jean Baumel.
Et c'est reparti depuis 2 minutes quasiment. Il reste 8 minutes et 18 secondes puisqu'un temps mort a été demandé par Pau, puisque Gravelines Dunkerque a bien démarré ce 3e carton, 35-26, plus 9 par rapport à la pause où c'était plus 7. Bon voilà, c'est léger, mais pour l'instant ça se passe bien pour les nordistes.
Allez, c'est parti pour du squash dans le Tipeee Show. Et on a un champion du monde en ligne, c'est Grégory Gauthier. Salut Greg.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Salut Grégory, c'est Tony, ça va?
Bonjour, ça va et bien? Bien et vous?
Bah ça va, hein, tu peux me tutoyer, hein, c'est bon.
Ça marche.
Bah, félicitations pour cette victoire. Hein. Je pense que tu l'attendais depuis longtemps, après 4 finales perdues de 2006 à 2013, c'était la bonne là.
Bah en fait, ouais, ça faisait un bout de temps que j'attendais ça. 4 finales perdues, ça fait mal au cœur, mais avec beaucoup de persévérance, on arrive quand même à toucher du doigt ce qu'on veut dans la vie des fois. Donc c'est vrai que c'est un pur moment de bonheur que j'ai vécu. Et puis voilà, maintenant on va essayer d'en décrocher d'autres en tout cas.
Ah bah c'est sûr, c'est le but. Justement, avec le recul, qu'est-ce que tu penses qui t'empêchait d'arriver à remporter cette couronne mondiale, de grimper sur la dernière marche, quoi? Le physique, le mental, tu penses que t'as mieux joué que les années précédentes?
Bah je pense que peut-être mentalement, parce que je me mettais peut-être un peu trop de pression par rapport à cet événement. J'avais du mal vraiment à... Voilà, j'essayais à chaque fois de me dire, bah, c'est un tournoi comme un autre, mais c'est vrai que ça passait pas. Et là, j'ai réussi à être plus relâché que d'habitude. Et le fait d'avoir vécu ces expériences, j'ai appris beaucoup et pris le positif malgré les défaites. Et puis voilà, là, cette année, j'ai réussi à produire un meilleur squash. J'étais plus serein, plus confiant. J'ai fait 5 tournois avant d'arriver sur ce chemin du monde où j'ai fait pas mal de finales et j'ai gagné 2 gros majeurs, dont l'US Open juste avant. Et je suis arrivé en pleine bourre, pleine confiance, et ça a bien fonctionné. Par rapport à l'année d'avant, je m'étais mis un peu plus de pression, je pense, parce que j'avais joué moins de tournois et j'avais vraiment ciblé ça comme objectif et je m'étais vraiment préparé, alors que cette année, je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas de règles. Je vais y aller au feeling, j'ai joué les tournois que je voulais, je suis arrivé là-bas finalement dans un bon état d'esprit et j'ai produit mon meilleur squash en tout cas.
Le parcours de Grégory, il est intéressant, Tipeee, parce que quand t'as été premier, numéro un mondial plusieurs années, que t'as été en finale des championnats du monde plusieurs fois, ça doit te trotter dans la tête de jamais arriver à être champion. Et c'est quand même une sacrée performance de finir par le faire. Je sais pas ce que t'en penses, Tipeee, mais ce parcours, il est assez singulier quand même.
Ah mais ça doit être le bonheur ultime, hein. C'est de toute façon, après quand tu perds des finales, ça devient de, tu sais que t'es vachement prêt, et donc ça se joue à rien. Et donc là je suis vraiment content pour lui que là c'est enfin passé, parce que je pense que en plus le squash c'est quand même un sport très ludique, c'est très très physique, où tu dois contrôler ta respiration, rythme cardiaque, il y a tellement de choses à gérer, et je pense qu'avec l'expérience c'est pour ça qu'après il a enfin réussi à être gagné. Peut-être je me trompe, hein, je sais pas, Greg.
Non, c'est vrai, ouais, c'est un sport très ludique. Voilà, pour une heure de squash, en gros, on fait entre 40 et 50 minutes de jeu continu, donc il n'y a pas beaucoup de moments de repos. Et puis c'est beaucoup d'accélération continue, donc c'est vrai qu'on est beaucoup dans le lactique en permanence. Les échanges peuvent être courts et longs, mais ça enchaîne, donc c'est vrai qu'après on a le cardio qui est assez haut en permanence, et voilà, il faut arriver à s'entraîner pour arriver à faire face à ces situations, et puis arriver à être relâché pour bien respirer, bien ventiler, pour être serein, pour arriver à mettre l'énergie qu'il faut dans chaque frappe de balle. Donc je pense que voilà, même au basket, vous êtes à fond les ballons pendant plusieurs minutes, et même si c'est un sport d'équipe, le cardio il est vachement haut, je pense, parce que vous avez beaucoup d'accélération, il faut suivre le ballon, et puis il y a beaucoup de prise d'informations aussi.
Il y a quand même deux trucs, c'est qu'au basket, on peut changer les joueurs. Tandis que vous, si on vous change, ça pose un problème.
C'est vrai que c'est énorme. 50 minutes de temps de jeu effectif sur une heure, c'est costaud.
Mais
il a
totalement raison. Le basket fait partie des sports comme ça, des sports où tu t'arrêtes pas et où t'as des petits appuis. Mmh. Et qui dit petits appuis, dit monter du cardio.
Après aussi, on monte le cardio aussi avec la concentration, avec, voilà, la pression, avec la prise d'infos, parce que ça va super vite. Donc dans les sports où par exemple comme au basket ça va très vite, faut regarder à droite à gauche en permanence, c'est pareil, le cardio est monté assez haut, donc voilà, on est dans des sports un peu comme ça, et moi j'aime bien, c'est intéressant, il faut c'est un sport assez complet où il faut être endurant, il faut travailler la rapidité, puis il y a la part de technique, et puis il y a la grosse part mentale où il faut être capable d'être solide tout un match et arriver à pas sortir du match s'il y a des problèmes d'arbitrage, s'il y a des problèmes avec le public ou voire même avec l'adversaire. Donc il faut arriver à rester concentré tout un match. C'est ce qui est le plus dur, en tout cas. Là où j'avais des problèmes toutes ces années, c'est là où on a vraiment mis l'accent à l'entraînement dessus, et où j'ai fait un grand bond, en tout cas cette année.
Et le squash, c'est peu médiatisé, hein. On arrive à vivre du squash, les sponsors, ils sont présents?
Voilà, j'ai quelques sponsors quand même. Après, on arrive à en vivre dans les meilleurs, quand on est vraiment dans les meilleurs. Mais après, ça reste pas des chiffres comme certains sports, comme le tennis ou le basket. Mais j'arrive à en vivre quand même confortablement.
Il y a un petit décalage avec la ligne à San Antonio.
Le squash, c'est pas présent au JO de Rio en 2016, mais il fait partie d'une liste de sports qui sera susceptible d'intégrer les JO à Tokyo, quoi, en 2020. Tu penses qu'il manque quoi à ce sport, justement, pour passer un cap?
Là, en fait, ça ne sera pas pour 2020. Donc voilà, ils vont essayer pour 2024. Pourtant, la Fédé mondiale et l'association professionnelle de squash ont mis ont investi beaucoup dans tout ce qui est télé pour retransmettre le squash à la télé. Maintenant, on a une superbe équipe pour avoir de superbes images, et c'était ça qui était un gros frein à l'époque. On disait quand on regarde le squash, on voit rien du tout, alors que maintenant, ça ne l'est pas du tout. C'est sûr que le fait de ne pas être olympique, c'est un frein pour nous. Derrière, on a beaucoup moins de budget par rapport aux autres sports qui sont olympiques. Pour la Fédé, c'est sûr que derrière, on peut pas développer le sport autant que les autres, hein, en tout cas, qui sont olympiques.
Grégory Gauthier, champion du monde de squash, donc bravo à toi, Greg, et puis merci d'être venu parler un peu de squash dans le Tipeee Show.
Merci à vous de votre invitation, et ça fait plaisir de parler à des grands champions comme à Tony Parker. En tout cas, c'était une première.
Bravo à toi.
Merci Greg, à très bientôt. Hein. À bientôt.
Merci bien. Bonne soirée.
Tipeee et Jacques, on va parler un peu de hockey ce soir dans le Tipeee Show parce que il y a eu un petit événement pour les Français cette semaine puisque les deux Français de la NBA se sont affrontés. Pierre-Édouard Belmar et Antoine Roussel donc se sont fait face.
Gravelines Dunkerque.
Pierre-Édouard est en direct avec nous. Salut Pierre-Édouard.
Bonsoir tout le monde.
Les Flyers de Philadelphie.
Oui.
Ça va Pierre-Édouard?
Ça va très bien, merci.
Philadelphie qui est 12e à l'Est, hein, avec 12 victoires et 18 défaites. Vas-y, Tipeee.
C'est ça. Salut Pierre-Édouard, c'est Tony, ça va?
Enchanté, Tony.
Bah, enchanté, hein, ça va faire plaisir de jouer contre un coéquipier de l'équipe de France.
Ouais, ça fait c'est bizarre, honnêtement. Depuis le temps, on en parlait, tout ça, de se retrouver. En tant que Français ici, c'est assez marrant.
Justement, moi, quand j'ai commencé NBA, il n'y avait pas trop de Français. Maintenant, on est une dizaine. Tu penses que la NHL, on verra de plus en plus de Français maintenant?
Je pense que du coup, le fait que Antoine et moi, on soit ici, ça médiatise justement beaucoup plus grâce aux interviews, tout ça, au niveau français. Il y a de plus en plus d'intérêt au niveau du hockey, au niveau français. Et je pense que dans les années, les jeunes voient le travail que nous, on a dû donner pour arriver ici et commencent à comprendre qu'il faut donner ce travail-là dès le jeune âge, quoi. Et grande chance.
Et du côté sportif, bon, ça se passe un peu moins bien avec les Flyers de Philadelphie. Vous êtes dans une période délicate. Comment redresser la barre? Ça va être dur d'accrocher les playoffs là.
Ah, délicate, c'est assez gentil. Je te remercie.
C'est d'être politiquement correct.
Je comprends bien. On joue bien contre les grosses équipes et on a du mal contre les équipes qui sont en dessous de nous. Soi-disant, on se met en tableau. Pour redresser, il faudrait qu'on arrête qu'on joue un peu plus pour l'équipe. Il y a un peu trop. Je vais rien t'apprendre. Ok, c'est un peu. Spécialement à la chaîne, il y a beaucoup de business. Et du coup, les mecs, des fois, pensent un peu plus à eux qu'à l'équipe. Et dans notre cas, on a un peu du mal à performer soir après soir. On va faire un bon match. Après, on va avoir du mal à jouer le match d'après. C'est la préparation d'avant-match et mentale, tout ça, et où faut qu'on arrive à être plus, qu'on soit plus solide, quoi. Parce que les grosses équipes, elles le sont. Mm-hmm. Hein.
Ah non, c'est sûr. Mais en tout cas, avec les Bleus, ça ira peut-être mieux, là. Votre prochain rendez-vous, là, c'est en mai 2016, hein, c'est ça, hein, le mondial en Russie?
Ouais. J'espère pouvoir en faire partie. J'étais pas la dernière à cause de mon épaule. Et, on est justement, vu qu'on est que deux, on est deux ici aux États-Unis, ça fait toujours plaisir de pouvoir aller aider l'équipe de France. On est quand même pas mal maintenant au niveau européen qui joue, mais on joue plus en France, mais le mondial, ça reste quand même toujours quelque chose d'exceptionnel pour nous. On est une petite équipe du mondial, donc.
Toi, Pierre-Édouard, tu as l'assurance de pouvoir y être si la saison de Philadelphie est terminée, ou peut y avoir des soucis comme en NBA avec des histoires d'assurance, comme on l'a vu avec certains joueurs de l'équipe de France de basket?
Il peut toujours y avoir des problèmes au niveau des assurances, tout ça, mais ma position dans l'équipe et mon contrat n'est pas aussi volumineux qui pourrait me poser des problèmes normalement.
D'accord.
Et puis j'ai une position au niveau de ma façon d'évoluer en Europe où tout le monde sait que pour moi l'équipe de France c'est quelque chose qui est aussi important que la saison. Du coup généralement l'année dernière ils m'ont vraiment pas posé d'embêtement, hein. C'était juste qu'il fallait à tout prix que je me fasse opérer. Ça fait 3 ans que j'attendais, donc mais cette année Si malheureusement on va pas en playoff avec Philly, je serai au mondial pour aider l'équipe, c'est sûr et certain.
Super, ça c'est une bonne nouvelle. Pierre-Édouard Belmar, donc l'attaquant des Flyers de Philadelphie en NHL. Tu sais, Tipeee, c'est un gros fan de NBA, donc il s'infuse les matchs des Sixers, hein, Pierre-Édouard.
Ouais, j'avoue que
c'est dur avec les Sixers, ça doit être dur.
c'est différent. J'ai pas eu la chance de venir. De venir vous voir jouer, j'ai vu 2-3 matchs avant ça et c'est pas spécialement le plus haut niveau. c'est quand même super à voir l'ambiance, tout ça.
Merci beaucoup Pierre-Édouard d'être venu dans le Tipeee Show.
C'est moins qu'on puisse dire.
Merci.
Le pauvre, il est puni, il va au Sixers.
On reparlera de hockey hein, tout au long de cette saison avec nos deux Français, puisqu'on n'oublie pas Antoine Roussel qui lui par contre est dans la franchise qui cartonne, hein, les Dallas Stars. Merci encore à Pierre-Edouard Belmar. Tout de suite, on va retourner sur les directs avec la Ligue 2, le match entre Nancy et Valenciennes. Arnaud Valadon.
On joue depuis 10 minutes dans cette deuxième période et pas de but, toujours 0-0 entre Nancy et Valenciennes. Et on va dire une équipe de la SNL beaucoup moins impériale dans le jeu. VA qui commence à sortir et essayer d'exploiter quelques ballons, même si la seule occasion à se mettre sous la dent de cette deuxième période, elle est nancéenne avec cette frappe de Pouillot contrée par Abdelhamid, le joueur de VA. Toujours donc 0-0 ici à Marcel Picot.
Merci Arnaud. Et puis donc la proie, la 12e journée de proie, Gravelines Dunkerque face à Pau Jean Baumel.
Il reste 1 minute et 40 secondes dans le troisième quart-temps, 52-38 pour Gravelines. Et le break a été fait dans ce troisième quart-temps. L'avance est énorme, plus 14 points pour les Nordistes, alors qu'il reste beaucoup de temps encore à jouer. Il y a encore 1 minute 30 et un quart-temps à jouer. Donc pour l'instant, tout va bien pour Gravelines, 52-38.
Merci Guibaud. Dans un instant, on va parler Pro A et NBA avec l'Asvel qui est toujours leader et le record de Golden State qui s'est arrêté hein, puisque ça y est, ils ont connu la défaite. C'est le Tipeee Show. Vous pouvez bien sûr venir poser vos questions au 32-16 et sur Twitter.
RMC jusqu'à 22h. Le Tony Parker Show. Pierre Dorian et Tony Parker.
Et toujours avec Jacques Monclar, le basket avec la proie et l'actu de la NBA. Golden State a perdu un match et ça c'est un vrai événement. On va y aller dans un instant, mais d'abord on retourne sur Nancy-Valenciennes en Ligue 2 avec Arnaud Valadon.
Une demi-heure encore à jouer à Marcel Picot et malheureusement toujours pas de but, 0-0 entre Nancy et Valenciennes.
Merci Arnaud, et puis on fait le point sur le match de proie. C'est la 12e journée et on suit Gravelines Dunkerque Pau avec Jean Baumel.
Et Gravelines qui s'envole hein, c'est la fin du troisième quart-temps, 58-40 plus 18 pour les Nordistes, autant dire que c'est très compliqué pour Pau de revenir dans la partie.
Merci Gibaud, la proie c'est tout de suite dans le Tipeee Show.
Ça va les gars. Franchement, on joue comme si on avait peur.
Il est exemplaire.
Donc toi, qu'est-ce que je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd. Au moins, on joue avec notre fierté.
Tipeee President.
Allez, la proie au programme également du Tipeee Show avec l'Asvel qui est leader et on accueille Charles Cahudi dans le Tipeee Show.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous.
Salut Charles.
Ça va Charles, t'es avec ton président.
Salut Charles, ça va, c'est Tipeee, ça va?
Ça va, tranquille.
Bon, ça va bien, je t'avais eu la semaine dernière, hein, mais je t'ai pas eu de vive voix depuis que t'as été sélectionné au All-Star Game, donc déjà félicitations pour ça, hein, c'est amplement mérité.
Merci, merci, c'est gentil. C'est toujours plaisir.
Bon, grosse victoire contre Nanterre. Tu sens l'équipe comment alors? On a bientôt fini la première phase. Est-ce que tu es content de l'évolution de l'équipe?
Ouais. On est vraiment plutôt pas mal. On pratique un basket intéressant. On est premier aujourd'hui. Mais le but est de premier à la fin, tu vois. Donc, on continue de travailler pour progresser parce qu'on sait qu'il y a des... Nous attendons encore plus dur.
Malgré tout, est-ce que c'est une
Jacques,
surprise pour toi que ça...
Hein, poser des questions, Jacques. Hein.
Est-ce surprise pour toi que ça arrive, entre guillemets, aussitôt que l'Asvel soit en tête du championnat?
C'est ce que j'allais lui demander.
Pour moi?
Ouais.
Non. Franchement, on a une équipe qui est franchement bien montée. Elle est un peu, je peux dire, un peu à mon image. C'est que les mecs, c'est vraiment tous des battants. Tout ça, cœur de jeu pour le collectif. On veut tous vraiment ramener l'Asvel le plus haut possible. Maintenant, on sait que la proie, c'est un championnat très compliqué. On sait que dans le canal, ça peut vraiment changer, donc il faut vraiment faire très peu attention. Et puis on prend match après match, parce que avec tout, c'est la Leaders Cup, puis après la Coupe d'Europe, puis après la Coupe de France, les championnats pour finir.
Non, mais moi aussi j'étais... Bon, Charles est sûr de lui, mais c'est vrai que dans le championnat, on pouvait penser que Limoges et Strasbourg faisaient figure d'épouvantail. Nanterre a très bien débuté, avoir un petit coup de moins bien. Il y a des équipes comme Dijon, Chalon qui sont là, mais l'Asvel est la plus régulière et Charles amène une certaine sécurité physique. Il y a aussi Trent Mitcham qui a un rôle non négligeable, et puis des garçons comme Watkins et tout, qui sont des vrais soldats. Et c'est un collectif qui fonctionne bien. Moi, je voulais lui demander, par rapport à ils font aussi la Coupe FIBA, vous avez rien lâché non plus là, hein, vous êtes en tête aussi dans votre poule. Hein.
Écoute, on recommence mercredi à la deuxième phase, donc on joue contre Kataja. Donc c'est une bonne
équipe.
Kataja, c'est une équipe de Finlande en fait. Il y a beaucoup d'internationaux qui sont là-bas, comme Rainico, donc c'est une équipe qui joue beaucoup de up-tempo. Donc les matchs seront normalement à un niveau plus difficile que le premier tour, donc il faudra nous d'être prêts.
Charles Cahudi dans le Tipeee Show, l'arrière-ailier de l'ASVEL qui est en tête de la proie.
Oui, ouais, Jacques. Juste une dernière chose. Vous vous préparez à ce que des équipes comme Strasbourg ou Limoges reformatent pour tout ou partie leur effectif pour la suite de la compète. Vous vous attendez à ça? Ils ont vécu l'Euroleague. On sait que ça fatigue, hein, tu le sais, hein, Charles. On sait que ça pile un peu. Vous vous dites, ils vont reformater, notamment Limoges. Ils vont renforcer et refaire leur équipe.
Ouais, on est conscient que les équipes vont forcément faire les changements. Maintenant, je pense qu'on est vraiment plus focalisé sur nous-mêmes, en fait. Travailler notre basket pour gommer justement nos petites imperfections et progresser, parce qu'on sait très bien que Limoges va sûrement changer. Strasbourg va supposer perdre Golubovic, je pense. Je sais pas s'ils vont garder ou s'il va partir. Donc après, il y aura forcément, ça va pas vraiment s'adapter, mais je pense qu'on va plus être focalisé sur nous parce qu'on a vraiment un groupe qui est sympa.
C'est l'essentiel et ça vous fait bien avancer.
Bravo. Exactement.
Charles Cahudi dans le Tipeee Show. Tiens, dernier mot, Charles, dans ton choix de carrière, est-ce que tu as, en gros, entre guillemets, senti que le projet ASVEL pouvait décoller cette année parce que tu étais quand même un joueur sollicité? Pourquoi tu as choisi l'ASVEL?
Pour plusieurs raisons, parce que le projet, c'est sûr qu'il était très intéressant. Tony m'a vraiment bien expliqué le projet. J'ai eu des accès au téléphone. Vraiment, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très très intéressant ici. Le bassin lyonnais, il est vraiment impressionnant. Après, je connaissais bien pas mal de joueurs pour les avoir affrontés. Et je savais qu'avec une équipe comme ça, on peut vraiment chercher des titres. Moi, j'ai soif de titres et j'avais à cœur de changer un peu du Mans. Après 6 années, c'est vrai que c'est un gros changement parce que j'arrive d'une nouvelle ville. C'est sûr que c'est une très grande ville, un nouveau club, le plus titré en France. Mais je va m'adapter un petit peu à ce changement, mais je suis très content d'être arrivé à Villeurbanne.
Bon, Charles, merci. On voulait marquer le coup, hein, faire un petit clin d'œil à l'ASVEL, toujours leader de la Pro A, dans ce Tipeee Show. Merci, Charles. À bientôt sur RMC.
Merci à vous. À bientôt.
Ciao, Charles.
Ciao.
Allez, on va finir avec toute l'actu NBA. On reparlera de l'ASVEL, bien sûr, tout au long de cette saison, puisque la saison, pour l'instant, se passe parfaitement bien. Alors, l'actu NBA, Tipeee et Jacques, évidemment, c'est la fin de série des Warriors qui ont perdu donc à Milwaukee, qui s'arrête à 28 victoires consécutives, hein, si on prend les deux saisons à cheval. Tu fais la tête, Jacques, quand je dis ça.
Oui, mais t'as raison, 28.
Techniquement, on en avait parlé la semaine dernière.
24, parce que si tu veux...
24, exactement.
Entre ces victoires de la saison dernière, il y a eu les playoffs, et ils en ont lâché en playoffs, c'est pas une invincibilité de suite. Autant en football...
Donc on va dire que le vrai record, c'est 24-0.
Pour nous, en tout cas, et c'est d'ailleurs, historiquement, tout sport collectif confondu, la plus belle perf pour commencer une saison.
Alors, ils perdent face à Milwaukee. C'est peut-être pas la meilleure équipe de la Ligue, mais c'est une équipe sérieuse. Mais bon, ça pouvait se sentir, parce que je crois qu'ils sortent d'un back-to-back en prolongation, hein, Tipeee, quand ils perdent...
Ouais, c'est vrai, à Boston, ils perdent après 2 prolongations. Donc, à mon avis, ils ont dû laisser beaucoup d'énergie sur ce match-là. Et puis, c'était le 7e match à l'extérieur, quoi. Ils étaient partis pour un long road trip. Et c'est très, très dur, hein. Quand tu fais 7 matchs de suite à l'extérieur, tous les voyages, ça devait être dur à la fin, là, d'avoir assez d'énergie pour, en plus, battre une équipe de Milwaukee qui est quand même, ça va être, à mon avis, une équipe de playoff à l'Est. C'est une équipe qui joue très, très dur, qui est très, très physique. Et donc, voilà, ils sont tombés sur un Milwaukee qui les attendait, et donc Golden State, ils ont du mal à terminer ce trip.
En tout cas, tu sens que ça leur tenait à cœur, même si les records, ça vaut pas un titre, on est tous d'accord, mais on a vu les réactions d'après-match qu'ils étaient très déçus, que finalement, ils se seraient peut-être bien vu battre.
Bien sûr, c'est pas tous les jours que tu peux battre des records, hein. Donc c'est pour ça qu'ils étaient tristes. C'est qu'un record comme ça, tu sais pas la prochaine fois que tu vas gagner 20 matchs, plus de 20 matchs de suite, donc c'est pour ça qu'ils étaient déçus sur le coup, mais après, on sait très bien que c'est pas ça qui fait gagner des titres.
C'est sûr.
Mais voilà, sur le moment, ils avaient envie d'essayer de battre ce record. Record de 33 victoires, quoi. C'est ce que Curry, ils en parlaient, quoi. Le record des Lakers de Jerry West qui avait gagné 33 matchs d'affilée.
Alors maintenant, bien sûr, ils auront peut-être dans le viseur, Jacques, le record des Bulls de 72 victoires en une saison. On va voir comment se déroule la suite. Mais
juste un petit truc sur cette histoire, ce qui est rigolo, c'est que le record des Lakers, la série des Lakers, elle avait été arrêtée par Milwaukee. Ouais. Il y a toujours des petits clins d'œil comme ça qui sont rigolos. C'est rigolo. C'est le Milwaukee avec à l'époque Karim Abdul-Jabbar, lui Alcindor quoi, qui changeait tout.
Et Oscar Robertson.
Et Big O qui finissait. Oscar Robertson, bien joué, Tony.
Ah, tiens, Clément veut parler de la série des Warriors avec Tipeee. Salut Clément.
Salut, bonsoir tout le monde, bonsoir Tipeee, bonsoir Jacques, bonsoir tout le monde. Voilà.
C'est quoi ton équipe toi Clément?
J'ai pas d'équipe particulière. Okay. Je suis assez fan, voilà, du basket en général. Après, plus ça joue collectif, moi, plus ça me plaît. Moi, j'avais une question pour Tony, parce que je considère, pour l'instant, actuellement, là, sur ce qu'on peut voir de la NBA, sur cette saison, je vois, à part les Spurs être aussi dominants, à part les Warriors et les Spurs être aussi dominants, est-ce que Tony pense qu'il y aurait d'autres équipes qui seraient pas capables de faire des séries comme ça, mais des séries plus courtes, mais qui pourraient être aussi dominants que ça? Je vois peut-être les Thunder, mais le problème c'est que Oklahoma, ils ont pas de jeu collectif, ils jouent beaucoup sur leurs individualités, et je vois très très peu d'équipes qui pourraient dominer comme ça. Peut-être Cleveland avec le retour de Kyrie Irving, mais voilà, je voulais savoir ce que Tony en pensait.
Ouais, je pense que t'as un peu dit toutes les équipes qui dominent un peu le championnat en ce moment. Cleveland à l'est son numéro 1, et je pense que quand ils vont récupérer Irving, ils vont être très très forts, et ils vont commencer à, on va dire, à essayer de créer de l'écart, on va dire, avec les deuxièmes et troisièmes de l'est. Et puis après, à l'ouest, bah, il y a nous et Golden State. Et OKC, ils jouent différemment de nous et Golden State, mais bon, c'est une équipe quand même très talentueuse. Donc je pense que ça va être les équipes qu'on va retrouver à la fin de l'année.
Et vous mettez pas les Clippers dans cette liste d'équipes qui peuvent faire des grosses séries?
Bah, actuellement, les Clippers, c'est pas non plus la grande sérénité au sein de l'effectif. Donc sur les résultats du moment, non, on peut pas les mettre dedans, quoi.
Oui, mais enfin, on n'est pas en play-off au mois de décembre, hein, et je pense que Clippers, OKC, vont monter de régime, les Spurs vont monter de régime. Bon, tu vas me dire, les Warriors, ils peuvent pas trop, hein.
Oui, c'est pour faire plus,
de l'autre côté, il me semble que les Bulls et les Pacers, quand même, peuvent aller chatouiller Cleveland, même si, il semble largement au-dessus, comme tu l'as dit, Arnaud.
C'est Clément.
Clément, pardon. comme tu l'as dit, on saura ce que vaut Cleveland, Tony, une fois qu'ils auront réintégré Irving et qu'on aura nouvelle photo avec cette équipe. Hein, c'est parce qu'il y a maintenant, ils auront Irving, Mo Will derrière, De La Vedova. Ça va habiller le bac court.
Merci Clément pour ton appel au 3216. Tiens, juste un mot avant de donner la parole à Gilbert Brivois, parce qu'il y a souvent des actions incroyables en NBA, mais celle-là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Jacques, c'est ton petit bonbon de la soirée. Parle-nous de ce panier de Russell Westbrook.
Mais Tony l'a vu, il va nous le raconter.
Il fait une passe avec le dos de l'adversaire.
Alors moi, je vais mettre en place. Il reste 0 seconde 7, sans que c'est le dixième. Remise en jeu en ligne de fond. Et le marsupilami, le Russell Westbrook, qui est sur la ligne de fond, tranquille, à attendre avec la balle en main. Et les mecs qui sont dos tournés à lui, il y en a un qui est à 1m50 et il y en a un qui est à 3m50. Voilà.
Et Tony, qu'est-ce qu'il nous invente, le Westbrook, là?
Non, bah, il fait une passe sur le dos du joueur, en fait. Et comme j'expliquais à Jacques avant l'émission, on l'avait déjà vu des joueurs faire ça, mais c'était plus pour un dunk ou un layup. Et là, il l'a carrément fait pour un tir extérieur de loin, en plus.
Et
il l'a fait de très loin au buzzer. Et c'est ça qui était différent et qui était marrant, quoi.
Quand même une action complètement incroyable. Tipeee, on se retrouve la semaine prochaine. Bon match face à Utah ce soir.
Ouais, bon
pas
match.
Pas de problème. Avec plaisir. Hein. Merci, hein. Merci. Jacques, merci à tous,
à toi,
et à très bientôt.
À la semaine prochaine pour le Tipeee Show tous les lundis soirs 21h, 22h.